France Musique.
Karine Le Bail, un air d'histoire. France Musique.
Bonjour à vous et bienvenue dans Un air d'histoire en compagnie de l'historienne Fanny Cosendet. Bonjour Fanny Cosendet.
Bonjour Karine Le Bail.
Un de vos nombreux livres parus chez Gallimard, intitulé La Reine de France, symbole et pouvoir, nous dévoile des reines bien loin d'être simplement installées dans l'ombre du roi et n'apportant donc au royaume que des enfants indispensables à la continuité dynastique. Au contraire, vous nous montrez à quel point les reines exercent une forme de pouvoir. Parce que bien qu'elles soient exclues de la transmission du trône, ces reines dont vous nous parlez ont longtemps quand même bénéficié de cérémonies monarchiques fastueuses, identiques à celles qui étaient organisées pour les rois. Et vous écrivez, les reines sont à l'égal des rois, sacrées et couronnées. Elles entrent dans les villes selon les mêmes modalités que leurs époux, reçoivent elles aussi des funérailles royales où l'effigie longtemps exposée est servie selon un rituel qui ne diffère pas de celui adopté pour les rois. Sans parler de la régence dont vous nous apprenez qu'elle la recueille systématiquement à l'époque moderne. Donc nous allons parler de quelques reines aujourd'hui et du lien qu'elles ont entretenu avec la musique. Et c'était un court extrait de la symphonie numéro 85 de Joseph Haydn, surnommée La Reine, une symphonie qui aurait été l'œuvre favorite de la reine Marie-Antoinette d'Autriche, épouse de Louis XVI, donc dernière reine de France et de Navarre. Une reine au destin plutôt tragique, Fanny Cosendet.
Et oui, la pauvre, si j'ose dire. Elle a effectivement fini sur l'échafaud lors de la Révolution française. Après un mariage qui était quand même assez brillant, puisque c'était une des dernières enfants de Marie-Thérèse d'Autriche, et donc mariée à un des plus grands princes, à l'époque, de la chrétienté.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous travaillez donc sur les familles royales, les questions de pouvoir, de rang, de patrimoine aussi. Et donc nous avons choisi avec vous, pour un air d'histoire, tout un ensemble d'autres reines, dans des périodes antérieures, qui ont bénéficié d'un ensemble de prérogatives ouvrant à ce que vous appelez le cycle des reines modernes, depuis Anne de Bretagne au XVe siècle, jusqu'à cette fameuse Marie-Thérèse d'Autriche, qui annonce selon vous le déclin du modèle royal féminin.
Effectivement, les reines modernes, l'idée, c'est que, alors que le roi de France a pris pendant très longtemps des princesses comme épouses à l'intérieur du royaume, c'est-à-dire des grandes héritières ayant des terres à l'intérieur du royaume, À partir de la fin du XVe siècle, après Anne de Bretagne, qui est la dernière grande héritière avec le duché de Bretagne, le roi de France se marie systématiquement à l'extérieur, c'est-à-dire avec des princesses étrangères qui transportent là plus tant des biens matériels, des domaines, que des droits potentiels sur les couronnes environnantes.
Anne de Bretagne, duchesse donc de Bretagne, cette première reine dont on va parler aujourd'hui, deux fois reine de France, elle est quand même l'instrument presque de la politique de son père.
Que ce soit les reines ou les rois, d'ailleurs, ils choisissent pas leurs époux et leurs épouses. En réalité, tout ça, c'est vraiment de la géopolitique et de la politique intérieure tout autant. Anne de Bretagne était mariée au point de départ à Maximilien d'Autriche et plus que fiancée, parce qu'il y a eu un mariage par procuration même, qui a été annulé. Et finalement, elle a épousé Charles VIII, contrainte et forcée, avec des conditions du contrat de mariage qui étaient très défavorables à la Bretagne. Et n'ayant pas d'enfant de ce premier mariage, une fois veuve, négocie, est en position de négocier beaucoup plus fortement son second mariage avec Louis XII, où là, le duché de Bretagne est moins facilement accessible puisqu'il est censément transmis au deuxième fils que le couple aurait. Seulement, finalement, tout ça revient dans les mains de Henri II à travers Claude de France.
Cette Anne de Bretagne, d'ailleurs, qui était très mélomane, qui goûtait beaucoup la musique et dont on dit qu'elle s'entourait de ménestrels bretons tout autant que, effectivement, dans les pratiques de la cour, c'est aussi toute une tradition des ducs de Bretagne, un grand appétit pour la chose culturelle.
C'est une princesse qui a à la fois la volonté de conserver cette identité bretonne et de s'affirmer comme reine de France. Elle a un sens politique assez fort et elle est sur ses deux registres. Donc effectivement, elle s'entoure de bretons, mais elle développe aussi de façon extraordinaire pour l'époque une cour et notamment une cour féminine qui fait qu'on parle de la première maison féminine avec Anne de Bretagne.
Et notamment avec une propre chapelle de musique. Ce qui est quand même spectaculaire, c'est que le roi a sa propre chapelle et elle aussi, donc Anne de Bretagne, possède sa chapelle avec quatre messes par jour. On sait que des artistes sont importants, hein, comme Antoine Divitis. Elle compte dans ses rangs aussi Jean Mouton, Claudine Sermizi, Pierre Moulu. Ce sont déjà des musiciens qui vont faire parler d'eux. Donc elle affirme aussi par là une forme de pouvoir sur une tradition de mécénat musical, par exemple.
C'est là où elle joue vraiment son rôle de reine de France aussi, c'est-à-dire en affirmant la grandeur de sa maison, qui est une maison royale, qui est la maison de la reine, et qu'elle développe considérablement, justement pour que apparaisse avec ce mécénat la grandeur de la monarchie autant que la grandeur de la duchesse.
Avec, pour les funérailles d'Anne de Bretagne en 1514, ces deux chapelles royales qui vont en quelque sorte se réunir pour donner un ensemble de messes. Et notamment, il nous reste un requiem d'Antoine de Févin. C'est Douce Mémoire qui est aux manettes. Et en plus, Antoine de Févin provoquait donc l'admiration du roi Louis XII. Et on va entendre un extrait, l'Agnus Dei, de ce requiem.
Christ, 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 Christ
Et c'était l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Rezindadre dans cette Agnus Dei, extrait du Requiem d'Anne de Bretagne d'Antoine de Févin, vraisemblablement interprété donc lors des funérailles exceptionnelles de la reine Fanny Cosendet. Je crois que Louis XII lui avait fait des funérailles absolument monumentales.
Les funérailles d'Anne de Bretagne ont été parmi les plus belles funérailles royales féminines qu'on ait pu identifier. Ah oui. Elles ont duré 40 jours, qui est le temps des funérailles d'une façon générale, mais où le rituel a été très développé encore une fois, et pour une raison simple, c'est que se rejouait la question de la Bretagne à cette occasion. Et il s'agissait donc, en fait, d'enterrer, en même temps qu'une duchesse de Bretagne, une reine de France, et donc de marquer la qualité absolue de reine de France qui éclipsait en quelque sorte la duchesse de Bretagne, d'où l'effigie avec le sceptre, la main de justice, la couronne, etc., qu'on a promené à travers une partie du royaume et dans la capitale, d'où aussi ces chants magnifiques qui ont été développés, les chapelles ardentes, etc., pour bien montrer que ce qu'on faisait disparaître, c'était la duchesse de Bretagne en même temps que la reine de France, et que donc ce fameux duché de Bretagne
devait être parce qu'elle est définitivement intégrée au royaume.
Exactement. Disparaissait avec la duchesse, et donc il ne restait plus que la France réunie à travers ces deux terres.
Alors Anne de Bretagne, mariée par deux fois donc à deux rois de France, ça nous renvoie donc à cette idée que c'est le mariage qui fait la reine, et vous évoquiez tout à l'heure effectivement le fait que les rois de France aller chercher des reines étrangères. C'est le cas pour Catherine de Médicis, autre grande figure dans le monde de la musique, en tant que grande mécène. Cette Catherine de Médicis, comment est-ce qu'elle va s'intégrer donc à la cour de France ?
Catherine de Médicis a un début difficile à la cour de France, peut-on dire. D'abord, c'est une petite princesse assez mal dotée, d'un prince qui a été chassé et qui épouse un cadet royal, puisqu'à ce moment-là, le futur Henri II n'est que duc d'Orléans. Elle arrive à la cour de France, elle est toute jeune, elle a 14 ans, elle n'est pas particulièrement gracieuse. Le futur Henri II, donc, s'y intéresse pas particulièrement. Et surtout, la pauvre, elle met plus de 10 ans avant d'avoir son premier enfant. Alors, une fois qu'elle a eu le premier, elle en a une dizaine en 10 ans, donc là, ça va très vite. Mais le point de départ a été difficile et donc elle a été toujours sur le point d'être répudiée.
Répudiée, oui, parce qu'il y a un document de l'époque qui dit que le roi, se fâchant d'avoir accepté une terre étrangère et sans fruit, et le dauphin s'était presque résolu de ne plus la cultiver. C'est le terme de l'époque.
Donc on dit que les médecins auraient insisté, et la maîtresse d'Henri II aussi, auraient insisté, Diane de Poitiers, pour qu'il fréquente la reine et qu'il y ait des héritiers, puisque c'est vraiment un enjeu tout à fait fondamental. Alors, Catherine de Médicis, dans cette situation très fragile, se fait assez discrète, mais développe par ailleurs des qualités, là encore, de mécénat et cultive d'autant plus les questions artistiques qu'elle vient de Florence. Et comme Marie de Médicis plus tard, ce sont des princesses qui ont été élevées dans cette culture-là.
Oui, et bon, c'est pas pour faire ma midinette, mais est-ce que le mariage avec Henri II finit par être heureux ? Bon, beaucoup de grossesses, d'accord, mais on a prêté à Catherine de Médicis une aventure avec un violoniste, Balthazar de Beaujoyeux. Est-ce que c'est attesté, cette intrigue amoureuse ?
Je dirais qu'aucune intrigue amoureuse n'est attestée. Et pourquoi elles ne sont aucune avec les reines ? Parce que ça remettrait en cause la légitimité de l'héritier.
Ah oui,
donc,
en fait, oui, évidemment.
À partir de là, quand bien même il puisse y avoir des écarts, évidemment, aucune trace d'aucune sorte n'est laissée dans ce domaine. Parce que derrière, il y a toujours cet enjeu, quand bien même les enfants sont nés après, que la reine puisse ne pas être fidèle et donc l'enfant pourrait ne pas être légitime.
Oui, donc c'est la fiction légale qui prime.
Mais ça marche bien, la fiction légale.
Il semblerait que ça fonctionne très bien à cette époque. ce fameux ballet comique de la reine, aurait été une commande de Catherine de Médicis pour le mariage d'un favori du roi Henri III, Le Mignon, avec Marguerite de Vaudemont. Ce premier grand ballet de cour qui aurait été donné donc en France, un ballet très très fastueux, je crois.
Oui, le mariage du duc de Joyeuse, donc, a été une fête de cour extraordinaire. Elle est d'autant plus extraordinaire que nous sommes au cœur des guerres de religion, que le roi est extrêmement critiqué et que, par ailleurs, il développe un cérémonial de cour important, ne serait-ce que pour se protéger, c'est-à-dire contrôler son entourage. Et alors, les fêtes du duc de Joyeuse à ce moment-là, qui sont les fêtes du favori d'Henri III, sont vraiment magnifiques. Il y a des tableaux superbes sur les bals qui sont donnés, sur la richesse de la princesse. D'autant que la princesse est la sœur de la reine, hein, donc Louise de Lorraine. Et de ce fait, le duc de Joyeuse devient le beau-frère d'Henri III.
Un autre thème qu'on avait envie d'évoquer avec vous, Fanny Cosendet, c'est le pouvoir des reines dans leur manière d'être des actrices de la paix par le mariage. Ça a été notamment le cas de cette petite Marie Stuart qui arrive à la cour de France, mais si jeune, et qui déjà en plus est sacrée reine, je crois, à 7 jours. Donc comme vous disiez, tout est décidé pour ces individus.
Marie Stuart est la seule enfant du roi d'Écosse et donc l'héritière du royaume d'Écosse. Elle la voit la reine quasiment à la naissance puisqu'elle est orpheline de père extrêmement jeune. Et alors sa mère, qui est une princesse lorraine, revient à la cour de France alors que est négocié le mariage avec François II. Donc Marie Stuart a en fait grandi toute son enfance, adolescence à la cour de France en étant reine d'Écosse et reine de France, mais enfin, elle a épousé l'héritier, mais c'est vraiment sur la fin de sa présence dans le royaume qu'elle est reine de France, c'est-à-dire un an, comme le temps du règne de François II. Et cette petite princesse, qui en fait est toute française d'une certaine façon, étant reine d'Écosse, repart ensuite en Écosse, et là, dans un royaume qu'elle connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas pour conseiller. Et ça se passe pas très bien.
Oui, elle a un destin absolument tragique, Marie Stuart. D'ailleurs, qui va inspirer de très nombreux écrivains, de très nombreux musiciens. Et donc, on aurait pu vous faire entendre un extrait, Marie Stuart date de Donizetti, qui a été créé au XIXe siècle, au Théâtre San Carlo de Naples. Mais nous avons plutôt choisi de vous faire écouter justement un texte de Marie Stuart. C'est Robert Schumann qui, en 1852, compose ce cycle de cinq lignes sur des poèmes de Marie Stuart. On va écouter le premier, Abschied von Frankreich, donc cet adieu à la France, dont le texte est évidemment nous parle beaucoup. Je voyage loin, Dieu ma France joyeuse, où j'ai trouvé la maison la plus chère dans l'enfance. Le bateau me porte si loin du bonheur, mais il porte seulement la moitié de moi. Une partie restera jamais la vôtre. Et c'est chanté magnifiquement par la mezzo-soprano Dorothea Rochman, accompagnée par Malcolm Martineau. Please. Un texte, un poème donc de Mary Stuart, mis en musique par Robert Schumann. Vous entendiez donc ce lied interprété par Dorothea Rochman, accompagné par Malcolm Martineau, cet adieu à la France. On voit bien donc poindre le drame que cette jeune reine va subir en retournant en Écosse. Nous sommes aussi en plein drame des guerres de religion, Fanny Cosendet. Une autre reine va être prise vraiment au milieu de ces guerres de religion, c'est Marguerite de Valois.
Marguerite de Valois, qui est une princesse française, puisque c'est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Marguerite de Valois est promise au roi de Navarre, en fait Henri de Navarre, qui va s'avérer l'héritier, donc le futur Henri IV, l'héritier du trône. Mais sur le moment, il est assez loin dans l'ordre de succession. Il y a encore deux autres fils de Henri II qui sont potentiellement héritiers. Donc, elle épouse un prince protestant, roi de Navarre, au cœur des guerres de religion, et pour sceller effectivement la paix entre les différents partis. Le tragique de l'histoire, c'est que précisément ce mariage donne lieu au célèbre massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, et par la venue de tous les princes protestants qui viennent célébrer le mariage de leur chef de file, en quelque sorte, et qui sont à Paris à ce moment-là, et ce qui déclenche ce vaste massacre des princes protestants.
Avec un mariage qui pourtant a été absolument fastueux, avec beaucoup de musiciens, des chars qui transportaient des musiciens. Effectivement, ce télescopage entre un bain de sang et un mariage, est-ce que ça peut expliquer aussi le fait que ce mariage ait été si malheureux dès le départ entre Marguerite de Valois et Henri IV ?
Ça explique en partie. C'est-à-dire que Marguerite de Valois n'avait pas du tout l'intention, visiblement, de quitter la cour de France qui était très brillante à ce moment-là, qui était animée par Catherine de Médicis, Charles IX aussi, mais beaucoup Catherine de Médicis, qui a su développer les arts, l'architecture, la peinture, la musique aussi, et qui donnait des fêtes aussi pour animer la cour à ce moment-là. Et Marguerite de Valois, l'idée d'aller s'enterrer quelque part du côté du château de Nérac ne lui plaisait pas du tout. Et c'est un mariage qui est jusqu'à la fin une sorte de mésalliance, c'est-à-dire une mésentente très forte entre les époux. Par ailleurs, Henri IV était peu présent, puisqu'il était toujours par Mons et par Vaux. On reste sur les guerres de religion de 1560 à 1598.
Donc ce mariage va être annulé, donc là aussi une fiction légale, parce que il n'y a pas de divorce, c'est ça qui existe à l'époque. Donc le mariage est tout simplement annulé, et Henri IV va épouser Marie de Médicis alors.
Quand Henri IV monte sur le trône, quand il devient héritier à la mort d'Henri III, Henri III désigne Henri IV comme son héritier légitime, ce qu'il est par ailleurs sur l'ordre de succession. À ce moment-là, Marguerite devient reine de France en même temps que reine de Navarre, exactement comme le roi devient roi de France et de Navarre. Mais cette mésentente, l'absence d'enfants entre eux et la fragilité de la succession d'Henri IV, qui est très contestée, même après sa conversion, même après son sacre en 1594, fait que le roi travaille à une séparation afin de pouvoir se remarier et avoir là une descendance qui assoile cette nouvelle dynastie des Bourbons.
Et pourtant, cette reine de France, donc, qui est non pas donc répudiée, mais écartée du trône, va continuer à incarner quand même une figure importante. C'est la reine Margot. Donc elle va continuer, même si elle est exilée, elle s'entoure de musiciens, elle apprend à jouer du luth. On sent une activité très forte encore de cette personnalité.
La reine, Marguerite de Valois, reste de fait un personnage important. D'abord, il faut voir que c'est la dernière des Valois dans le royaume de France, la dernière de cette dynastie. Et elle porte en elle ces qualités royales qu'elle a eues dès la naissance et qu'elle tient à valoriser sans cesse. D'où ce titre qu'elle conserve même après l'annulation du mariage et qu'on appelle donc la reine Marguerite. La reine Margot, ça viendra avec Alexandre Dumas, qu'on reconnaît bien. Mais elle garde ce titre de reine, elle garde une cour en fait autour d'elle très importante. Elle arrive à négocier avec l'annulation des noces une pension tout à fait respectable. Et à partir de là, elle joue une position un peu ambiguë à l'intérieur du royaume où elle est quand même un référent très important du fait que c'est la dernière de la dynastie disparue.
Combien est heureuse la peine. d'être bientôt contente, quand chacun de s'attente d'être bientôt contente. Lassons vœu que je t'aise, mon apparent désir, en feignant qu'il me plaise, nouvelle amie choisie. Mais telle fiction veut même affection. Mais telle fiction veut même affection. Votre amour. La mienne violente n'entend pas ce secret. Amour, nulle saison n'est à mille raisons. Amour, nulle saison n'est à mille raisons. Si mon feu sans fumée et puis d'âme chaude, et tant de vous aimer du reste de ma chaude, soit mon mal vu de tous et seul senti de vous, soit mon mal vu de tous et seul senti de vous. Si femme à ma présence autre vous entretient, amour veut que je pense que cela m'appartient, car lui et longue fois vous doivent tout à moi. Car lui et longue fois vous doivent tout à moi.
Faire ma amitié, tu tu prendrais grande pitié de ma ferme pitié. Vous semble-t-il que la vue soit assez d'amis? Ne me c'est trop peu désireuse, amour veut avoir mieux. C'est trop peu que désireuse, amour veut avoir mieux. De vous seul, je confesse que mon cœur est transi. Si j'étais grande princesse, je dirais tout ainsi. Si le vôtre est si fait, montrez-le par les fêtes. Si le vôtre est si fait, montrez-le par
Ô combien est heureuse d'Adrien Leroy par le poème harmonique et Vincent Dumestre.
Karine Le Bail, un air d'histoire, France Musique.
Un air d'histoire en compagnie de l'historienne Fanny Cosandet, où nous parlons du pouvoir des femmes par le mariage, par l'enfantement. Nous n'avons pas encore évoqué le pouvoir de régence. Ça nous amène justement, assez naturellement, à Marie de Médicis, donc la deuxième épouse d'Henri IV, si l'on suit bien la chronologie et toute la complexité dynastique. Hein, j'espère que les auditeurs nous suivent à peu près. Donc, cette Marie de Médicis qui épouse Henri IV va être à la fois donc reine régnante, régente et douairière. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces trois fonctions, en quelque sorte, Fanny Cosandet?
Lorsque la princesse arrive dans le royaume de France et qu'elle épouse le roi, elle devient reine régnante, c'est-à-dire elle prend le titre de son mari et elle siège, elle trône à ses côtés sans exercer de pouvoir spécifique. Et puis, elle parfois devient veuve. Et c'est le cas avec Marie de Médicis, puisqu'Henri IV est assassiné en 1610. Et quand elle devient veuve, pour peu qu'elle ait un enfant mineur, à ce moment-là, elle devient régente du royaume au nom de son fils mineur. Et alors, douairière, c'est autre chose. C'est juste parce qu'elle a le douair, c'est-à-dire elle a un revenu qui lui permet de vivre en tant que veuve.
Alors à cette époque, on sait que effectivement, quasiment tous les événements dynastiques, mariage, naissance des enfants, funérailles, sont célébrés en musique. Pourtant, cette Marie de Médicis, on l'a dit, assez peu cultivée et assez peu intéressée par les choses de l'art.
La mauvaise réputation, cette pauvre Marie de Médicis. Elle a mauvaise réputation parce qu'on l'a dit, fille de banquière. Elle arrive avec une dot qui a été négociée âprement par Henri IV, qui était à ce moment-là extrêmement endetté. Et donc, c'est des négociations de marchands de tapis, ou à peu près. Et le grand-duc de Toscane, à ce moment-là, est le banquier de l'Europe, ou à peu près. Et donc, elle arrive avec cette idée que c'est, on l'appelle d'ailleurs la grosse banquière, ce qui donne une idée de l'estime qu'on lui porte. Et à partir de ce moment-là, quoi qu'elle fasse, pratiquement, elle apparaît comme la grosse banquière, ce qui est resté dans les annales de l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas du tout travaillé en profondeur, comme l'a fait avant elle, Catherine de Médicis, qui est une arrière-petite cousine de parenté très lointaine, n'a pas travaillé en profondeur le cérémonial, la dimension artistique, la promotion en quelque sorte par les arts des rois et reines de France.
Et est-ce que aussi son action aurait pu être éclipsée par le faste dont s'entoure Henri IV, même quand il voyage, il y a toujours des musiciens. C'est le premier, Henri IV a créé quand même un titre, le titre de surintendant de la musique, qui est quand même un poste très très élevé dans le grade royal, dynastique. Donc elle peut difficilement prendre sa place à côté d'un époux aussi suractif.
Elle peut difficilement prendre sa place. Et il faut dire aussi que les époux s'entendent extrêmement mal. On a beaucoup de témoignages de ça. Henri IV n'est pas très heureux en mariage, mais nettement plus en amour, dans ça qu'on pense. Et du coup, ils ne vivent pas du tout ensemble. Et en fait, elle qui est très intéressée par les bijoux, l'orfèvrerie, etc., qui est un domaine qu'elle a développé, Par contre, ce qui est des arts et tout l'intéresse moins. Et le faste de la cour, d'une certaine façon, elle est moins au centre de ses opérations. Effectivement, probablement qu'Henri IV, là, cherche pas du tout à l'y associer.
Puis il y a quand même des compositeurs fameux comme Pierre Guidron ou Claude Lejeune, hein, qui sont compositeurs en musique de la chambre du roi. Et donc c'est eux qui, effectivement, dans l'histoire de la musique, vont inscrire aussi la légende dorée de ce roi Henri IV. On va entendre justement une pièce de Pierre Guidron, Si tu veux apprendre les pas à danser, toujours avec ce magnifique ensemble du poème harmonique et Vincent Dumestre qui dirige cet ensemble. Apprendre les pas à danser de Pierre Guidron par le poème harmonique. Nous arrivons à notre dernière reine de France, Fanny Cosendet, enfin, la dernière grande reine moderne, si l'on suit cette chronologie qui a été évoquée au tout début de ces reines qui créent des grandes alliances à l'échelle européenne. Cette dernière reine est donc Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, infante d'Espagne, et elle se marie en 1660 et ça aurait été donc l'œuvre du cardinal Mazarin, je crois. C'est une construction de Mazarin.
La reine Marie-Thérèse est promise à Louis XIV et Louis XIV à Marie-Thérèse, d'ailleurs, parce que ça marche dans les deux sens, ce qu'on oublie souvent, à l'occasion de la signature de la paix, le fameux traité des Pyrénées, qui est la paix entre la France et l'Espagne. Le traité est signé en 1659 et le roi épouse Marie-Thérèse sur l'île des Faisans, c'est-à-dire à la frontière exactement entre la France et l'Espagne, pour bien montrer que c'est un territoire neutre à partir duquel la reine rentre dans le royaume. Et la fin de cette guerre qui est la fin de la guerre de 30 ans, hein, c'est quelque chose de très lourd dans le royaume, la fin de cette guerre, le jeune roi qui s'affirme comme tel, il a une vingtaine d'années, il est magnifique, il est plein de vitalité, et l'arrivée de cette jeune princesse qui amène plein d'espoir aussi, donne lieu à des festivités extraordinaires, tant pour le mariage que surtout pour l'entrée royale, qui est une entrée royale particulièrement fastueuse et qui sera la dernière grande entrée royale dans le royaume de France.
Et cette reine dont on connaît les traits magnifiques représentés par Velázquez quand elle était encore enfant, cette reine, elle va souffrir beaucoup des infidélités de son époux, du manque d'amour en fait, parce que elle arrive, elle est toute jeune, elle apprendra plutôt pas vraiment à parler le français, donc c'est une reine isolée.
C'est une personnalité qui apparaît assez effacée jusqu'à sa mort en 1683. Mais il faut avoir en tête que, par exemple, Catherine de Médicis, pendant tout le règne d'Henri II, est un personnage assez effacé à la cour et qu'elle s'est révélée comme une très grande politique au moment où elle a accédé à la régence. Donc il y a aussi une situation en tant qu'épouse qui fait que les reines apparaissent effacées et Marie-Thérèse meurt bien avant son époux, donc on ne sait pas ce qu'elle aurait donné comme politique, en quelque sorte, si on lui avait confié les rênes du pouvoir. Alors, à partir de là, effectivement, tous les mémoires de l'époque disent qu'elle est béate d'admiration devant son époux, qui ne manque pas de personnalité, et elle s'efface, elle laisse faire. En plus de ça, le jeune roi, plein de vitalité, développe notamment de très grandes fêtes à la cour et à Versailles, qu'il est en train d'aménager d'abord les jardins, puis après le pavillon qui deviendra le château de Versailles. Et à ce moment-là, il développe notamment ses grandes fêtes des plaisirs de l'île enchantée en 1664 pour sa maîtresse. Et Marie-Thérèse est toujours un peu en retrait par rapport à ça. Pour autant, c'est toujours une ambiguïté puisque le roi célèbre autant son épouse que les femmes, sa femme à travers ces fêtes-là.
Et puis elle aura quand même droit à des grandes funérailles par Lully, puisque Lully jouera son De Profundis pour les obsèques de la reine Marie-Thérèse en 1683.
Et lors de la mort de Marie-Thérèse, Louis XIV aurait dit « c'est le seul chagrin qu'elle m'ait jamais donné ».
Une idée de l'attachement qu'il lui portait.
Mais effectivement, c'était important. D'abord parce que là encore, il y avait un héritier. Et donc, on célébrait non seulement l'épouse du roi, mais la mère du dauphin aussi. Et qu'il s'agissait de montrer par là que la dynastie française, bourbonienne, se célèbre à travers le cérémonial. D'où l'importance, effectivement, notamment de la musique dans ces occasions.
Et donc, on évoquait tout à l'heure la fonction pacificatrice presque de ce mariage en 1660, même si cette paix entre la France et l'Espagne, je crois que va être quand même plutôt de courte durée. Mais il y a eu une très belle œuvre qui a été composée pour ce mariage, le cardinal Mazarin, donc toujours lui, commande à Cavalli un opéra italien, non achevé en 1660, mais qui va être représenté deux ans plus tard, Ercole Amante, Hercule amoureux. Et nous allons donc nous quitter avec cette très belle œuvre. On va l'entendre dans une interprétation de la Capella Mediterranea, dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Et on entend l'air de Giunone, et un très très bel air, donc qui va conclure cette ère d'histoire.
Ciò che dentro non verrebbe.
Mein amor ch'io qu'altri fura, extrait d'Ercole Amore, l'Hercule amoureux de Cavalli, qui va donc refermer cette ère d'histoire consacrée à quelques reines de France et le rapport à la musique. Merci beaucoup Fanny Cosendet pour cette traversée du pouvoir des reines entre le 15e et le 17e siècle. Les auditeurs retrouveront toutes vos bibliographies sur la page d'Un air d'histoire, sur le site de francemusique.fr. Vous pouvez aussi nous écrire, écouter l'émission en ligne ou même la télécharger. Cette émission a été préparée par Adèle Moll et Philippe Demenoux et réalisée par Christine Amano aux manettes aujourd'hui. Jaizan Taous. Et la semaine prochaine, vous retrouverez dans Un air d'histoire l'égyptologue Sybille Emery qui nous parlera de la harpe dans l'Égypte ancienne, si la harpe m'était comptée. Musique et chant dans l'Égypte ancienne, c'est le joli titre qu'elle nous a donné. Je vous souhaite une très bonne après-midi à l'écoute de France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.